L'écho des artistes du festival d'Avignon.
L'écho des planches part à la rencontre des artistes au gré de ses coups de cœur. Bonne écoute à tous sur l'écho des planches. Bonjour Olivier Pie, alors nous vous retrouvons en ce fin de festival pour parler un peu de ce qui s'est passé pendant ce mois très tumultueux pour notre esprit. Alors j'aimerais qu'on aborde trois thématiques ensemble. D'abord des questions sur la programmation et les différentes thématiques qu'elle pouvait contenir cette année. En seconde partie, un bilan de ces quatre dernières années que vous avez effectué hier dans votre conférence de clôture, que j'ai trouvé très belle pour ça. Et pour terminer, quelques questions sur les Parisiens. Quelques petits mots sur les Parisiens.
C'est parti. Voilà.
Donc la programmation du festival cette année, comme toutes les autres années, nous a donné vraiment des armes pour affronter la démocratie et les périls auxquels elle est confrontée avec la montée en masse des populismes, en restant toujours à l'écoute de la sagesse qui s'accumule depuis longtemps, telle que nous l'a confié Satoshi Miyagi lorsqu'on a fait un entretien avec lui. J'ai trouvé cette formulation très belle de sa part. Donc on a effectivement le Birgit Ensemble qui a questionné voilà, l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe d'hier, Antigone. Évidemment, pour qui la loi des dieux prime sur la loi humaine et qui par là est l'essence de la démocratie. Comment est-ce que vous comprenez, avec votre regard d'artiste et de directeur, ce qui fait l'épaisseur démocratique des spectacles que je viens de citer et dans l'ensemble de tous les spectacles de la programmation ?
Je crois que c'est très beau de parler d'épaisseur démocratique. J'aime beaucoup cette formule, je la retiens, mais je crois qu'elle vient du public d'abord. Hein. Je crois qu'elle vient du festival. Mais du festival, si on le regarde côté public, c'est le public qui nous permet de poser des questions et de sortir clairement du divertissement. C'est le public aussi qui donne sens par sa diversité, par son adhésion à ces œuvres-là. Et puis c'est le public qui fait que le festival n'est pas une liste de grands spectacles avec des gens qui viennent voir un spectacle et puis qui rentrent chez eux. C'est pas ça le festival. C'est trois semaines où il y a une communauté d'esprit qui se réunit autour des artistes, utilisant la parole des œuvres et des artistes pour, comme vous le disiez, rappeler que la démocratie n'est pas un arrêté juridique, qu'elle est un travail quotidien de personne à personne, que la vie de chacun est en soi politique, que quelquefois nous faisons des gestes quotidiens, mais qui sont des gestes politiques, et que la politique n'appartient pas qu'aux politiciens.
Et cela passe également par des spectacles qui questionnent la mémoire, des mémoires qui sont incertaines, en tout cas dans l'appréhension historique que nos sociétés peuvent en avoir. C'est le cas du travail de Dorothée Munyaneza autour du Rwanda ou encore de celui de Carolina Guyela Nguyen autour du Vietnam. Quelle est selon vous l'importance pour le théâtre de raconter ces histoires par rapport à la société en général ? Est-ce que c'est le théâtre qui doit raconter cette histoire ?
Ce qui est très intéressant dans les deux spectacles que vous avez cités, je pourrais ajouter celui du Birgit Ensemble, c'est que c'est une mémoire, mais c'est une mémoire récente. Donc c'est souvent l'endroit mémoriel qui n'est pas encore entré dans les livres d'histoire, qui a encore une certaine fragilité, voire un certain débat, qui produit encore un certain débat, dans lequel il y a une dialectique, mais qui a déjà passé le temps du journalisme. Alors là, le théâtre s'inscrit de manière unique dans les autres œuvres. Et c'est vrai que c'était très présent cette année. La question de la mémoire, à mon avis, croisait beaucoup, dans beaucoup d'œuvres, la question de l'identité, de la double identité, de la transidentité, de l'identité du réfugié. Le réfugié est-il un réfugié ou a-t-il une autre identité ? Je dirais même que les garçons avec qui j'ai travaillé dans Hamlet, c'est aussi une question d'identité qui dépasse l'identitaire. Les hommes qu'on a vus sur scène n'étaient pas des détenus, ils étaient d'abord eux-mêmes. Ils le disent par ce spectacle-là. Donc tout ce qui peut casser les effets génériques, les effets d'amalgame, les effets claniques, ça c'est vrai, c'est déposé pour l'éternité dans les œuvres d'art, et la réflexion que ça donne de cette question-là, un homme est d'abord un homme avant d'être appartenir à une nation ou d'avoir une quelconque étiquette identitaire, la réflexion de ces questions-là est produite aussi par la masse du public qui lui aussi, le public, ça veut rien dire, n'existe pas, qui lui aussi est une somme d'individus libres.
Et on a également des spectacles qui racontent chacun à leur façon une part de l'histoire du théâtre, ce pays que nous habitons tous, j'ai envie de dire. Et c'est donc cette année, c'était le spectacle de Castorf autour de la figure de Molière, le spectacle de Sopro, enfin pas Molière et pas que, hein, mais le spectacle de Sopro de Thiago Rodriguez, le vôtre aussi. Qu'est-ce que cette mise en abîme de la théâtralité raconte de la politique ?
Ça, c'est une question vraiment passionnante. Il faudrait écrire un livre de 1000 pages là-dessus. Bien sûr, le théâtre est souvent métathéâtral. Peut-être parce qu'il est un peu insulaire dans la société. On nous le reproche suffisamment. C'est un objet un peu archaïque qui n'a pas forcément besoin de technologies nouvelles, qui n'a besoin que d'un lien social pour arriver à se reconstituer dans sa pure essence. Il est métathéâtral et certainement, quand il est métathéâtral, il est aussi politique. D'ailleurs, Hamlet, c'est par excellence à la fois la pièce politique et à la fois la pièce métathéâtrale, avec cette formule, le théâtre et le piège par lequel nous prendrons la conscience des rois. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est un théâtre qui prend conscience de sa force politique ou de sa faiblesse, d'ailleurs. C'est peut-être plus le cas du spectacle de Castorf quand les rois deviennent des tyrans, puisque c'était Bouliakov face à Staline.
Et dans l'ensemble, les spectacles sont toujours dans une recherche, je trouve, acharnée et singulière, d'une part, d'humanité enfouie en chacun de nous, ce qui provoque toujours de l'émotion, parce que... Il y a une pureté des cœurs, finalement, dans ce que du public, je pense. Et donc, ce sont les mythes qui nous traversent et qui n'ont de cesse de questionner cette pureté. Et en quoi la présence, véritablement, de poètes tels que Kleist ou Maeterlinck est essentielle pour vous au Festival d'Avignon aujourd'hui ? Parce qu'on sait que c'est assez difficile de mettre en scène de tels textes aujourd'hui et c'est pas forcément bien reçu par le public. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question ?
Non, je pense pas que les classiques soient plus difficiles. Au contraire, ils ont toujours une... certaine adhésion du public. Ce qui est vrai, c'est que ça peut paraître banal de dire qu'on questionne l'humanité de l'homme. Ça peut paraître banal, mais enfin, à l'époque, on parle de transhumanité, de post-humanité, un terme très très à la mode qui me fait franchement rigoler. Je pense que l'humanisme survivra au concept de post-humanité. Et il y a un endroit qui le dit, évidemment, c'est le théâtre. Alors on peut faire des arts plastiques avec de la post-humanité, on y arrive même très très bien, c'est même une tendance lourde. On peut faire des tas de choses avec la post-humanité, et surtout du commerce. Mais si on veut des œuvres anthropogènes, qui créent de l'humain, qui approfondissent l'humanité de chacun et de tous, alors on revient très très vite au grand récit et au mythe. Et souvent ils ont été racontés mieux que nous par des poètes qui ne sont plus là.
D'autant que Kleist fait partie un peu de l'histoire du Festival d'Avignon, puisque c'était un auteur que Jean Villard appréciait.
Oui, c'est vrai, mais enfin, autant que Shakespeare, Shakespeare n'aurait pas eu la place qu'il a en France s'il n'y avait pas eu le Festival d'Avignon. C'est le Festival d'Avignon qui a proposé Shakespeare comme le grand atelier, toujours à refaire, toujours à retraduire, toujours à repenser, de l'Europe, au fond, de l'Occident peut-être, de l'Europe d'abord, de l'Occident ensuite.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur le bilan de ces 4 dernières années. Alors je peux témoigner parce que la première fois que moi je suis venu au festival, c'était pour la première année de votre mandat.
Alors on a commencé ensemble, c'est très bien.
Voilà, je suis vierge de toute autre expérience du festival, si je puis dire. Et donc j'ai pu observer certains des dispositifs que vous avez construits et pensés avec les équipes du festival et toute leur évolution. Alors au niveau, je rappelle, au niveau économique, d'abord la politique tarifaire pour les jeunes pour renforcer l'accessibilité. Au niveau du débat d'idées et de la mémoire ancienne et actuelle du théâtre, le développement de la nef des images et des ateliers de la pensée, ainsi que le développement de rencontres professionnelles. À l'endroit de la programmation artistique, il y a quelque chose de très important, le travail avec le jeune public et avec les prisonniers, on en parlera. On ne va pas pouvoir tout évoquer, hein, bien sûr, mais j'ai remarqué qu'il y a toujours une programmation construite et pensée pour faire face finalement à tous les naufrages qui menacent notre société. Et j'ai presque envie de dire pour s'en faire l'écho. Et je vais reprendre une très belle formule du poète Adonis qui dit que voilà, il faut signer les abîmes en quelque sorte pour mieux comprendre notre condition humaine. Donc j'aimerais, sur ces questions-là, qu'on s'attarde plus particulièrement sur les expressions du théâtre jeune public. Et sur le spectacle d'Olivier Balazuc particulièrement, parce que j'ai vraiment été émerveillé par ce spectacle. Il nous montre le monde à travers le regard d'un enfant qui aspire à la perfection. Et c'est vrai que dans notre société, on n'apprend pas aux enfants à s'émanciper. Et c'est l'adolescent et le jeune homme qui s'émancipent parfois douloureusement au prix de luttes intérieures. Et à ce titre, l'écriture de votre cahier noir que j'ai lu l'année dernière peut véritablement en témoigner. Pensez-vous qu'il faille, par le théâtre, apprendre aux enfants à s'émanciper quand on passe notre temps dans la société à les brider et à les infantiliser?
Alors, c'est beaucoup de questions. Oui. Au moins pour la dernière, oui, je continue à penser que le théâtre aide à ce que les enfants ne soient pas transformés en boîtes carrées dans lesquelles on rentre des futures compétences professionnelles. ça aide, c'est fondamental, et c'est d'autant plus fondamental que l'enfant qui est allé au théâtre aura plus de facilité après à y retourner. Effectivement, la pièce de Olivier Balazuc répond très directement à cette question-là. Elle nous dit que d'abord, dans l'éducation, il faut commencer par apprendre des enfants, et que simplement un rapport uniquement vertical n'est pas juste, car nous avons à apprendre des enfants. Et puis surtout, elle décrit parfaitement bien, au-delà de la question psychomorale, car cette pièce fait l'éducation des parents, en quelque sorte, pas des enfants, elle montre ce que le techno-capitalisme virtuel exige de nous. Cette espèce de perfection qui ne rime à rien et qui en fait est la mort. Donc en nous tuant, elle nous promet l'immortalité. Y a là quelque chose qui est décrit de manière très, très rare et très sensible à l'endroit de la quasi-destruction psychique d'un enfant, puisque c'est ce qu'on voit en route. On voit comment le consumérisme techno-capitaliste, éventuellement lié aux puissances virtuelles et surcommunicantes, détruit psychiquement, peut psychiquement détruire un enfant, puisqu'il finit enfermé dans un placard au bord du suicide, jusqu'à ce qu'il y ait un happy end qui n'est pas un happy end de formule comme ça, qui à mon avis est juste et profond, à savoir que l'enfant a plus à nous en apprendre, que le désir continue même quand il a l'air détruit et abîmé, que la résilience est là, que l'imaginaire sont là. C'est une belle pièce, c'est une pièce hautement morale, donc je trouve ça très très bien. Et puis j'aime beaucoup cette idée que ce sont les parents qui ont appris quelque chose et qui croyant venir faire l'éducation des enfants ont appris eux-mêmes à faire la leur.
Alors j'aimerais qu'on évoque parmi les thématiques que j'ai évoquées dans mon introduction la question des ateliers de la pensée, qui constituent véritablement une matière aussi importante que les spectacles. Peut-être que parce qu'ils ne parlent pas uniquement des spectacles ou du théâtre, mais qu'ils offrent la possibilité de faire naître sans cesse des discussions au présent, dans un cadre qui n'est pas celui du marasme médiatique qui nous offre toujours pléthore d'experts en désespoir, j'ai envie de dire, sur les plateaux télé.
Et de polémiques vaines.
Alors quelle importance peuvent avoir ces ateliers de la pensée par rapport à la direction artistique du festival ?
Alors, c'est vrai de le rappeler, le spectacle pour les enfants, comme les ateliers de la pensée, ou ces canaux, ou l'église des Célestins, c'est des dispositifs qu'on a mis en place pour sortir du consumérisme spectaculaire. Puis j'ai vu dans les rues d'Avignon qu'il manquait un lieu où on pourrait débattre, se rencontrer, prendre la parole, écouter, se taire. Ça manquait. Je suis heureux qu'il existe, et puis surtout que le public s'en soit emparé. Alors, l'université nous a prêté ce merveilleux jardin, ça a aidé. Le fait qu'il soit légèrement excentré fait qu'au fond, il y a un autre centre, ou alors c'est une réalité plus excentrique, mais plus réelle parce que plus excentrique. Et j'ai vu d'année en année l'adhésion du public grandir, jusqu'à ce que ça devienne un lieu nécessaire pour un festivalier qui n'est pas là seulement pour acheter des spectacles, mais aussi pour se sentir un peu plus au monde. C'est vrai, la plupart des hommes et des femmes qui ont pris la parole n'ont pas eu envie de le faire avec du catastrophisme. Mais c'est tout simplement parce que c'est des gens intelligents, profonds, et que le catastrophisme, ça passe peut-être très très bien dans les médias courts, et qui exigent la rapidité de la pensée, ou une pensée sloganiste. Mais dès que la pensée est un petit peu développée, alors elle devient plus complexe, et elle intègre à la fois l'angoisse ou la lucidité, et en même temps, je dirais, l'espoir dû à la connaissance de l'histoire.
Justement, je voudrais prendre un exemple concret sur les ateliers de la pensée, sur la question des migrants, par exemple. En fin de festival, il y a eu une rencontre SOS Méditerranée, autour de justement de la question de ces migrants, qui faisait directement écho au spectacle de Maud de Pladec et de Guy Cassiers, Grinsgeval. Vous pouvez nous dire quelques mots sur...
J'étais pas à la rencontre, donc si vous y étiez, c'est...
Oui, mais j'ai entendu justement Paul Rondin évoquer cette importance du lien entre les ateliers de la pensée et aussi finalement les thématiques abordées dans le festival.
Oui, de même qu'à l'ANR, dans les rencontres de l'ANR qui sont tout aussi passionnantes pendant 3 jours, il ne s'agit pas du tout de penser le théâtre, mais de penser avec le théâtre ou par le théâtre. Il ne s'agit pas non plus de juxtaposer un grand penseur avec un artiste, souvent d'ailleurs de manière, comment dire, surplombante, comme si l'intellectuel en savait plus que l'artiste. Alors, c'est très exactement ce qu'on a voulu briser. Rappeler qu'il y a de la pensée dans le théâtre, y compris dans le théâtre qui n'utilise pas de parole, dans la danse ou dans les autres formes, et que cette pensée nous aide à focaliser, à concrétiser des nœuds gordiens qui mettent en relation. Je crois que ce qui est propre à la pensée d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas être enfermée dans sa discipline. Et qu'elle n'est intéressante que quand elle arrive à créer des liens avec d'autres disciplines, d'autres formes de pensée, y compris celles qui ne sont pas formulées ou formulables. C'est cette manière de penser là qu'on a essayé de proposer. Et c'est aussi une manière de faire de la politique. Elle est différente, je crois. Mais c'est peut-être unique à Avignon. Il n'y a peut-être que Avignon qui peut offrir ça.
Et un autre dispositif aussi, alors que j'ai pas eu la chance d'être tiré au sort pour voir Hamlet, j'en étais désolé, mais disons qu'on vous a vu, ému dans le reportage de France 2 sur les coulisses du Festival d'Avignon, on vous a vu très ému en évoquant cette question des prisonniers. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui aurait pu provoquer cette émotion lorsque vous en avez parlé?
Je sais pas, j'ai pas vu le sujet de France 2, mais...
En tout cas, vous sembliez très ému lorsque vous parliez de ces hommes et...
J'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de cette expérience. Je pensais pas qu'elle deviendrait si médiatique d'ailleurs, puisque ça fait 3 ans que je fais ça, de manière discrète. Mais tout simplement l'extrême violence de la condition carcérale aujourd'hui quelquefois me submerge, la sensation de profonde injustice et le courage aussi des gens qui travaillent dans les prisons. Je crois une idée très très fausse de ce qu'est un gardien de prison, c'est souvent des gens qui sont en empathie et qui sont courageux mais qui font un métier difficile, des femmes beaucoup d'ailleurs. Et puis comment dire, pour résumer, la sensation que dans une très grande majorité des cas, la prison ne s'adresse pas à des criminels, mais est une mauvaise réponse à une mauvaise question, qu'elle n'arrange rien, qu'elle est profondément une injustice sociale, puisque la plupart de ceux qui sont là parce qu'ils sont nés dans le mauvais quartier où il n'y avait pas d'autre économie que le deal. Voilà ce à quoi on est confronté quand on passe cette porte qu'est la prison à des questions de démocratie. Autrefois, enfin je dis autrefois, à mon époque, la prison était vraiment une question dont les intellectuels s'emparaient beaucoup. Aujourd'hui, plus du tout. Il faut vraiment qu'on se la repose parce que c'est beaucoup plus grave qu'il y a 30 ans.
Alors je voudrais qu'on parle maintenant des Parisiens. Vous êtes revenu finalement à votre écriture depuis Orlando ou l'Impatience, en tout cas au Festival d'Avignon. Les Parisiens nous montrent une sorte de quête métaphysique de la liberté qui serait sans doute vaine si elle n'était pas toujours tendue vers la démocratie, comme le montre d'ailleurs le combat politique de certains personnages, notamment celui de Gilda. En même temps, le lyrisme y est toujours excessif et quelquefois saugrenu, même si vous montrez des personnages toujours en quête, rassasiés d'espérance ou totalement déçus. Je me demandais si les Parisiens n'étaient pas en réalité une espèce d'enquête sur la désillusion poétique et politique.
La désillusion, oui, mais l'espoir aussi. Enfin, c'est pas pour rien que c'est des jeunes. Mes personnages sont toujours beaucoup plus grands, beaucoup plus nobles, beaucoup plus fous que moi. Ils parlent mieux que moi. Je m'efforce toujours de faire ça, de faire des personnages qui sont plus beaux que moi. Même si c'est des projections de moi-même, c'est des projections de moi-même agrandies. Et même dans les personnages d'ailleurs, comment dire, dont je fais une caricature méchante, malgré tout, ils ont une force d'éloquence qui est supérieure souvent à leur modèle. Et je suis bien sûr toujours le modèle de tous les personnages, y compris des plus vils. Mais c'est vrai, il y a à la fois une désillusion politique et en même temps des forces extraordinaires dans le spectacle, notamment. La question du féminisme, du nouveau féminisme, de la lutte contre le patriarcat. Cette idée qu'il faut changer les hommes, enfin, l'homme au sens masculin. Que c'est plus possible, cette masculinité, qu'on ne doit plus la subir, qu'on n'a plus à la subir. Elle est très présente. Le combat politique est toujours, dans ce que j'écris, lié au combat spirituel. C'est la leçon que j'ai pu prendre dans Shakespeare. Shakespeare ne parle pas de politique, d'art, de métaphysique ou de jalousie. C'est comment ces thématiques-là jouent les unes avec les autres dans chaque pièce qui produit Shakespeare. Donc on peut dire que Shakespeare parle de tout dans chacune de ses pièces, mais jamais de la même manière.
Parce que je disais ça parce que j'avais l'impression dans le personnage d'Aurélien qu'il y avait une vanité créative chez lui, c'est-à-dire une envie de créer sans cesse. C'est très très drôle d'ailleurs, et en même temps c'est des sujets très graves quand on voit quand il met en scène la comédienne, je me souviens plus du nom du, enfin, que joue Mireille Hismayer.
Elle s'appelle Catherine.
Catherine.
Dans le roman,
il y a quelque chose de très très grave. On a l'impression que tout ça lui échappe.
Oui, ça c'est le propre de l'artiste, de mettre en scène ce qui nous échappe, certainement. Mais au-delà de ça, il comprend avec plusieurs maîtres d'ailleurs, dont cette comédienne, mais aussi un vieux monsieur qui s'appelle Laurent Duverger. Il comprend que le maître absolu c'est la mort, et que ce que vise la poésie c'est toujours de nous révéler la caducité de notre existence. C'est d'abord ça. Il comprend bien sûr que tout est vanité. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait de l'art, tout simplement. Voilà. Il comprend que tout est assujetti à la mort et que la seule réponse c'est l'art. C'est ça qu'il comprend. Lucas agit différemment. Tout est assujetti à la mort et donc la seule réponse c'est l'amour.
Et justement, je voulais tout de suite parler du personnage de Lucas parce que c'est un personnage qui m'a véritablement parlé, qui est habité par la violence de son père et aussi dans la violence qu'ils peuvent avoir dans son rapport à Aurélien. Et moi, ça m'a vraiment évoqué quelque chose de très pasolinien. J'ai beaucoup pensé à Théorème, le film de Pasolini, en voyant votre pièce. Et est-ce que vous tendez vers la même mystique?
Lucas est un personnage mystique, ça, il n'y a absolument aucun doute. Aurélien veut tout et Lucas veut plus. Alors moi je crois que c'est propre à la jeunesse, la mystique, y compris quand elle est ridicule ou inopérante ou maladroite. Mais j'espère toujours ça, qu'il y a des adolescents, des jeunes gens qui vont voir mes spectacles et qui seront aspirés dans leur devoir spirituel, qui auront envie de vivre plus pleinement les présuppositions, les présomptions. On ne sait jamais rien, bien sûr. On ne sait jamais rien et Dieu restera toujours absent. Mais il y a une manière de vivre avec l'absence de Dieu qu'on peut appeler mystique et qui est belle. Et souvent, c'est la jeunesse qui en est capable.
Et justement, cette mystique, est-ce qu'elle se passe par l'expérience de la sexualité dans la jeunesse? Parce que c'est quelque chose aussi de très présent dans les Parisiens.
C'est très présent dans la vie des hommes.
Bien sûr, dans la vie des hommes, évidemment.
C'est très présent dans la vie des hommes et c'est un point qui permet de parler de politique et qui permet de parler de Dieu. Comme disait mon professeur de philosophie, la sexualité, c'est pas une chose dont on parle, c'est une manière de parler des choses. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense pas que la sexualité soit en soi un sujet. Pas plus que l'homosexualité d'ailleurs, qui est certainement pas un sujet. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé d'homosexualité. Mais par contre, l'hétéronormativité, ça existe. Parce que ça, c'est des schémas d'oppression. Et ces schémas d'oppression, je crois qu'il est bon que le théâtre les désamorce.
Alors, une dernière chose sur votre écriture en général. J'ai une élève en cinquième à qui j'ai donné en lecture cursive votre pièce « La jeune fille, le diable et le moulin ».
Oui.
Et elle m'a écrit en fiche de lecture quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable. J'aimerais que vous réagissiez. Elle m'a écrit « On ne sait pas si les personnages parlent ou s'ils pensent ».
Magnifique.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Magnifique, magnifique, magnifique. C'est très exactement ça que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire rentrer, c'est ce qu'on appelle la parole tout simplement. La parole, elle est autant reçue que dites, quelquefois elle est dite quand en la disant on la reçoit, mais c'est ça, c'est la parole. Mes personnages sont capables de parole et ils dépassent la communication vaine ou polémique ou triviale pour atteindre à une parole qui pense ou qui est la pensée. C'est parfait, c'est magnifique, une formule magnifique.
Merci Olivier Py d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et on vous souhaite bon courage pour la préparation de la prochaine édition. Merci beaucoup.
Merci.